Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Lemel.
Bonsoir.
Rav Eli Lemel, on survole comme chaque semaine notre paracha, le passage qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et on arrive donc à Pinchas. Et Pinchas pose toute une série de questions et d'enseignements. Mais vous voulez intervenir, vous, ce soir, sur quelque chose de particulier. C'est que Moïse, Moshe Rabbeinu, sait qu'il va partir. Et donc, il doit choisir un chef, un successeur. Donc, sujet éminemment politique, mais sujet qui nous parle à nous tous. Nous, on n'est pas tous les jours à chercher un chef. Mais par contre, on a besoin de savoir c'est quoi un vrai leader, c'est quoi un vrai chef. Peut-être, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, peut-être même aussi comment nous essayer d'être des gens qui apportent quelque chose de positif en étant facteur de proposition. Mais surtout, voilà, disons comme ça, comment est-ce que la Torah nous explique la façon de trouver un chef et quelles qualités elle veut qu'il ait?
Exact, exact. C'est vrai qu'on est dans un moment quand même clé de l'histoire, puisqu'il va y avoir donc d'abord cette fameuse guerre avec les Midianim, qui, comme vous le savez, ont fait fauter les enfants d'Israël, avec tout le passage des jeunes femmes qui les ont amenées à la débauche, et puis par la suite à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, bien, maintenant, il va falloir s'occuper des Midianim, avec tout ce qu'ils ont fait, mais tout de suite après, bien, Moshe sait que ça va être le moment dans lequel il va devoir partir de ce monde. Et à ce moment-là, eh bien, Moshe va s'adresser à Dieu et lui va lui poser la question, il va lui dire « Yifkad Hashem Eloke Aruchot Lochol Basar Ish Halohéda ». Moshe va demander à Dieu, il va dire que Hashem place. Alors c'est très intéressant parce qu'il parle ici de Dieu Eloke Aruchot, le Dieu des souffles pour toute chair, Ish Halohéda, un individu, un homme sur l'assemblée. Donc déjà, c'est intéressant de voir quelle est l'appellation qu'il donne au créateur de l'univers. Et puis après, il va définir un petit peu son rôle, Asher Yetzé Lifnem, Asher Yavo Lifnem, qui littéralement sortira de devant eux et viendra devant eux. Et il continue, afin que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un bétail qui n'a pas de berger. Alors, on sait très bien que ça fait très... L'image est belle, mais évidemment, vous savez très bien que si la Torah utilise ces termes, ce n'est pas parce qu'on a envie de faire de jolies images, c'est parce qu'il y a ici des enseignements fondamentaux. Eh bien, tout d'abord, intéressant de voir que Moshe, dit le Midrash, d'abord a imaginé que ça pourrait être ses enfants qui seraient ses successeurs. Et Dieu va dire non, ce n'est pas eux. Celui qui va être ton successeur, eh bien, c'est Yoshua, Josué, qui est son fidèle élève, celui qui, l'Oyamish, celui qui n'a jamais quitté la tente de Moshe, traduction, c'est celui qui a été à proximité constante de Moshe, non pas juste pour entendre son enseignement, mais surtout pour le voir quelque part gérer et traduire au fond la Torah dans le monde du réel. Et c'est très intéressant parce que vous savez qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit « Gadol Shimusha Yoter Milimuda », ce qui veut dire que plus grande et plus importante est Shimush, c'est-à-dire la proximité, le service, littéralement, des Talmidei Chachamim, des maîtres, bien plus que l'apprentissage du savoir. Alors, évidemment, il faut être dans la connaissance, il faut être dans le savoir, mais au fond, ce qui est important, c'est de savoir comment ce savoir se traduit dans le monde du réel, et c'est la fréquentation, la proximité avec les maîtres qui nous permet de le découvrir. Il y a ce qu'on appelle le monde de la théorie, le monde de la pratique. Je me rappelle avoir eu ce privilège extraordinaire de fréquenter un tout petit peu quelques maîtres et peut-être certains un peu plus proches. Et c'est vraiment un privilège et une chance incroyable que j'ai eue. Et je me rappelle un jour, près d'un de ces maîtres, eh bien, quand il avait posé une question, il avait donné une réponse, et avec un peu d'impertinence, beaucoup d'impertinence, je m'étais tourné vers ce maître et j'avais dit mais Rav, c'est marqué où ça? Et le Rav, de me regarder en souriant, il me dit ça, c'est marqué dans le cinquième Chelek du Shulchan Aruch, c'est-à-dire dans la cinquième partie du Code des lois juives, surtout qui n'en compte que quatre. Et en bon, qu'est-ce qu'il était en train de me dire? Ça, justement, ça, c'est ce qui n'est pas écrit dans les livres, et c'est ce que tu dois apprendre en étant à proximité d'un maître, entre autres que chaque question de halakha, chaque question de loi, est fonction aussi de l'individu qui est en face. Il y a bien sûr des bornes qu'on ne peut dépasser, mais entre les deux, il y a en effet toutes sortes d'éléments dans lesquels on tient compte de l'humain qui est en face de nous. Un petit peu cette image, la question au fond, c'est comme un satellite que vous allez envoyer sur une orbite, vous mettez à l'intérieur tout ce qui est nécessaire. Donc pas juste la question, mais aussi l'état d'esprit, qui est la personne qui la pose, quel est le contexte. Et après, avec tout ça, eh bien, le maître, justement, va donner sa réponse. Donc ça, c'est la première chose. Eh bien, Hachem dit, voilà, la première qualité du chef, c'est qu'il ait été à proximité, qu'il ait su s'imprégner de cette Torah qui n'est pas nécessairement écrite dans les livres, mais que l'on apprend, qui est véritablement la notion de Massora, la notion de transmission. D'ailleurs, on le voit souvent, on va dire, voilà ce que j'ai entendu de mes maîtres, voilà ce que j'ai vu chez eux, et ça, c'est véritablement un élément essentiel. En dehors du fait qu'il n'y a pas juste cette zone d'apprentissage, mais il y a aussi une imprégnation de ce qu'est véritablement un maître. Un maître, c'est-à-dire pas juste un savoir, mais aussi de la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, la manière dont il est, dont il fonctionne au quotidien. Ça, c'est la première chose. Et donc, Yoshua, en effet, eh bien, c'est celui qui a été en permanence proche de Moshe, qui ne l'a jamais lâché. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle Yoshua va être choisi. Donc déjà, cette première dimension. La seconde chose, c'est que Moshe dit « Eloke aruchot l'ochol basar » que le Dieu des souffles de toute chair. Non, Dieu, Yifkod Hashem, que Dieu choisisse, qu'il place. Pourquoi Eloke aruchot? Eh bien, parmi les différentes explications que nos maîtres donnent, ils disent la chose suivante. Un maître, un dirigeant, c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'il y a des ruchot, c'est-à-dire que chacun des membres du peuple d'Israël est différent. Et de la même manière, comme dit le texte, chez En Partsufehem Shavim, que leurs visages ne sont pas identiques, ainsi En Deoten Shavot, de la même manière, leur vision des choses, leur perception de la vie n'est pas identique. Donc, quelqu'un qui sache en effet intégrer la singularité de chaque personne vis-à-vis de laquelle il aurait une responsabilité et agir en fonction de cette singularité. C'est très important parce que ça veut dire qu'au fond, le maître n'est pas là pour poser une idéologie, mais est là pour transmettre la Torah, pour diriger la communauté et le peuple, mais en tenant compte de la particularité, de la spécificité de celles et de ceux qui sont en face de lui. Et là, je pourrais rester longtemps et vous raconter de multiples histoires dans lesquelles, en effet, eh bien, on peut constater ô combien des maîtres tiennent compte de cela. Je me rappelle d'ailleurs, c'est juste une anecdote, il y a nombreuses années de cela, on m'avait posé une question complexe, évidemment, dans ce genre de cas. Vous êtes tellement heureux d'avoir des maîtres vers qui la poser, parce que souvent, nous ne sommes que des transmetteurs. Et j'avais parlé à un maître, qui était à l'époque à Londres, et je lui ai dit, voilà la question qui m'est posée, qu'est-ce qu'on dit? Et lui m'avait dit, mais qui sont les personnes qui te posent la question? Et je l'avais décrit, je lui ai dit, c'était des personnes qui avaient fait un retour au judaïsme. Et il m'avait dit cette phrase, il m'a dit, écoute, je ne connais pas suffisamment leur univers et donc je ne suis pas sûr que je pourrais donner la réponse qui doit être la leur par rapport à tout ce qui constitue la question, c'est-à-dire eux aussi, appelle tel autre Rav qui lui connaît bien mieux cet univers et qui pourra te donner la bonne réponse. Et ça, c'est cette notion-là qu'on vient d'évoquer avec cette notion de proximité du maître. Et là, Eloke Aruchot, il faut en effet que le maître soit à l'écoute de la singularité, que le dirigeant comprenne que chaque génération est différente, que chaque famille est différente, et donc qu'il sache intégrer cela à l'intérieur de la manière dont il va gérer ses responsabilités par rapport à des individus, par rapport à une communauté, par rapport à un peuple. Et après cela, « Asher yetzé lifnem, vacher yavo lifnem » qui sortent de devant eux, et qui rentrent devant eux. C'est-à-dire, on a ici quand même quelqu'un qui soit capable aussi de se sortir en premier lieu et après venir vers eux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? Eh bien, c'est un petit peu, alors certains, ça va les faire sourire, c'est presque le contraire de la démocratie. C'est-à-dire, il voit d'abord sortir, il prend d'abord une direction et après il vient vers eux. Traduction, il doit savoir dans quelle direction on doit faire avancer les choses et ne pas sans arrêt être en train d'interroger le peuple sur ce que le peuple veut. À un moment, un chef dans le peuple d'Israël, évidemment qui est nourri par une vision Torah de l'existence et par la proximité de maître, eh bien, doit savoir qu'il y a une direction à prendre et après faire en telle sorte de ramener cette direction vers le peuple et leur montrer ô combien celle-ci, eh bien, est fondamentale. La Gemara, Talmud, dans le traité de Sota, nous dit que une des caractéristiques de l'époque prémessianique, c'est que on dit que la génération ressemblera au chien. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, une des choses, malheureusement, c'est que le chien n'a honte de personne, il fait tous ses besoins devant tout le monde, il y aura une forme comme ça d'impudence, aucun problème. Mais seconde lecture, c'est que quand vous voyez un chien et que vous avez devant le maître, en vérité, le maître n'est généralement pas à l'avant, généralement le maître est à l'arrière, et on a l'impression que c'est le chien qui dirige le maître, sauf quand on arrive à un carrefour. Et sur ça, nos maîtres disent, eh bien, ça sera sans doute un système dans lequel les dirigeants, au fond, interrogeront sans arrêt à chaque carrefour le peuple pour lui dire « Mais où veux-tu aller ?» et nous prendrons la direction que le peuple veut aller. C'est vrai que ça pose un réel problème parce que lorsque le dirigeant décide et que le peuple a l'impression qu'il n'est pas écouté, on peut arriver à tous ces principes de totalitarisme. Mais rappelons-nous qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans la Torah, le chef, surtout le roi d'Israël, puisque c'est le symbole même du chef, doit avoir en permanence avec lui un Sefer Torah, c'est-à-dire qu'il guide le peuple suivant ce que la Torah nous demande. Et il a à ses côtés, bien sûr, des maîtres qui l'aident à mieux comprendre comment, en effet, la Torah nous propose de gérer telle et telle situation. Et nous savons parfaitement que chaque époque est différente et que donc il y a des manières différentes d'appréhender les problématiques. Mais c'est un petit peu ça, Asher Yetzé. D'abord qu'ils sachent vers où il faut aller, Yasher Yavo. Et après, il va revenir vers eux, leur ramener au fond la direction que l'on doit prendre. Et puis après, que l'assemblée de Dieu ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alors, c'est quoi au fond ? Eh bien, ici, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que lorsque on parle de berger, on parle de quelqu'un qui a une responsabilité alors que le maître n'est pas là. Généralement, le berger est là et puis lui, il a une responsabilité, mais il sait qu'il a une responsabilité, mais ce n'est pas son intérêt personnel. Vous savez, si demain j'ai un troupeau, moi, et qu'il m'appartient, je m'en occuperai bien parce que j'en tire un bénéfice, parce que au fond, ça m'intéresse parce que plus les moutons seront en bonne santé, plus ils produiront du que sais-je et plus je gagnerai de l'argent. Alors que le roé, le berger, lui, il n'a pas d'intérêt personnel parce que lui, il a son salaire. Alors lui, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il fasse les choses parce qu'il faut les faire et pas parce qu'il a son intérêt personnel. Il y a, disons, mettre ici une forme, si je peux m'exprimer ainsi, de petit clin d'œil, en train de dire, lorsque le dirigeant voit son intérêt personnel, alors à terme, ça ne le fera pas. Il doit être à l'image de quelqu'un qui est là en mission et qui a une responsabilité et qui veut assumer le mieux possible cette responsabilité. Comme ce roé qui, de toute façon, est payé. Alors pour lui, qu'est-ce que ça change, qu'il y a un mouton de plus ou de moins ? Eh bien non, pour lui, c'est justement important parce qu'il est payé pour cela, mais ce n'est pas son intérêt personnel qui est à l'origine de la manière dont il s'occupe de son troupeau. Et cette notion-là est ô combien fondamentale que la personne n'ait pas d'intérêt personnel à l'intérieur de sa dimension de direction. Et à partir de cela, évidemment, eh bien, on peut avoir les bases, les sous-bassements de ce qui va permettre par la suite à un peuple d'avancer, à une communauté, parce que lorsque l'on parle ici de chef, de dirigeant, eh bien, on parle aussi de communauté. Comme vous le voyez, juste comme ça, très rapidement, ô combien ces versets nous ouvrent sur ces fondamentaux, ils demandent d'être beaucoup plus explorés que ce que je viens de le faire avec vous, évidemment, mais on a déjà ici les bases d'une réflexion qui est passionnante.
Rav Eli Lemel, est-ce que vous me permettez de vous parler de football ?
Avec plaisir. Moi, je suis encore à l'époque de ceux qui s'appelaient Carnus et autres. Alors, peut-être certains se rappelleront de Marseille et de Saint-Étienne, etc. Ah ouais. Mais bon, on va faire comme si on connaissait ce qui se passe actuellement.
Ah bah, mais non, mais je vais vous parler de quelqu'un qui date de cette époque. Il y a un jour, je demande à Luis Fernandez, et je me souviens que Mbappé avait 18 ans, donc vous voyez, c'est pas hier. Mais justement, c'est lié. Je lui dis, on dit, il avait 18 ans, Mbappé. Je lui dis, est-ce que tu crois que Mbappé, il peut devenir le meilleur joueur du monde? Il est, voilà, on dit qu'il a ce potentiel-là. Alors il me dit, en tout cas, il a le potentiel. Alors, je lui dis, ah bon, et qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'il devienne le numéro 1 du monde? Et Luis Fernandez, qui a été donc joueur mythique, qui a été entraîneur du PSG, notamment, me dit, il faut qu'il trouve les bons dirigeants, les bons entraîneurs. Et il doit comprendre, l'entraîneur, que c'est quoi un bon entraîneur? C'est quelqu'un qui comprend qu'il doit donner la possibilité au joueur de jouer et d'être lui-même et de se développer lui. Parce que de très nombreux entraîneurs croient qu'ils refont leur carrière. Ils ont été joueurs et après maintenant ils refont leur carrière en étant entraîneur. C'est très rare de trouver un entraîneur, donc en l'occurrence pour reprendre votre réflexion de ce soir, un dirigeant, de trouver un entraîneur qui comprend qu'il est là pour l'autre, mais qu'il le fasse vraiment. C'est-à-dire pas qu'il refait le match, quoi, ou qu'il refait sa carrière. Ce sera la carrière de Mbappé. Si quelqu'un sait faire ça, c'est jouer au football déjà, c'est quand même, ça peut aider, mais est un expert et saura de comprendre qu'il ne fait pas le match à la place de Mbappé, mais que ce sera lui qui le fera, alors Mbappé deviendra le numéro un du monde. Est-ce que vous trouvez que c'est en adéquation à ce que vous venez de dire?
C'est en adéquation et en vérité, ça m'ouvre à un commentaire que j'avais entendu il y a très longtemps du refrain de Forte, que j'avais beaucoup aimé, sur le fait qu'il y ait marqué tzadik katamari, frère, que le tzadik, le juste, il est à l'image du palmier. La question se pose, pourquoi le palmier? Il y a plein d'autres arbres. L'explication qui était donnée, elle était fort belle, c'est que le palmier, vous savez, il a un feuillage, mais qui est très haut placé, ce qui permet au soleil de pouvoir accéder sur la proximité immédiate du tronc et donc de permettre aux jeunes pousses qui sont là-bas de se développer. Au fond, le tzaddik, quelqu'un de juste, quelqu'un qui a une responsabilité, est celui qui donne la possibilité à ceux qui sont à proximité immédiate, justement, de se développer. Il ne cherche pas à leur faire de l'ombre, au contraire, il n'a qu'une envie, c'est qu'eux-mêmes puissent véritablement s'épanouir et éclore. Donc voilà, en effet, on s'y retrouve un petit peu.
Magnifique. Magnifique, Rav Eli Lemel. Merci pour ce très beau cours, une fois encore. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Mordechai Bitton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Oui mon cher Bernard, Shalom Aleichem.
Alors Rav Mordechai, vous voulez intervenir vous sur un sujet qui étonne beaucoup ceux qui découvrent le livre de la Torah, par exemple dans un processus où on retrouve un peu la religion et sans avoir été éduqué dans celle-ci, c'est celui du nombre de fois où la Torah compte les gens. C'est absolument incroyable, c'est fait plusieurs fois, régulièrement. On compte et c'est ce qu'on appelle des recensements. Et vous voulez réfléchir avec nous sur cette question parce que c'est vrai qu'on est toujours surpris de dire pourquoi on a déjà compté, on va recompter encore. Et donc ce soir, vous voulez intervenir sur ce qu'on appelle le recensement.
Alors effectivement, on va s'intéresser à ce thème du recensement des Bnei Israël. Donc c'est un recensement qui intervient après donc, la plaie qui a frappé le peuple juif à la suite donc, de la prostitution collective à Shittim avec les femmes de Moab et les femmes de Midian également. Et donc une plaie qui va frapper le peuple. Et on va s'intéresser à la question de savoir comment ce recensement est rapporté. Alors, la première justification, c'est que Hachem aime son peuple et que après qu'une plaie, en quelque sorte, est frappée, il veut savoir ben, qui est là. Il compte en quelque sorte son troupeau. On sait très bien qu'en vérité, ce compte, c'est le compte des Neshamot, le compte des âmes d'âme Israël. Les âmes qui sont dans le désert constituent en quelque sorte la racine de toutes les âmes juives qui viendront tout au long de l'histoire. Mais Rashi, lui, va nous donner aussi une autre indication. Et le commentaire de Rashi se trouve donc dans le chapitre 26, verset 5. Et Rashi va dire la chose suivante. en expliquant pourquoi ici les familles donc, sont recensées, et les ministères sont recensés, mais sur chaque famille, on va rajouter des lettres du nom de Dieu. Yud-Ké. Ces deux lettres, vous savez que les lettres du nom de Dieu sont au nombre de quatre, Yud-Ké, Vav-Ké, et qu'on va rajouter pour chaque famille qui va être recensée, la lettre He au départ et la lettre Yud à la fin. Pourquoi ? Rashi va l'expliquer. Les Oumot HaOlam, les nations du monde, méprisaient complètement ces Juifs, ces Hébreux qui étaient sortis d'Égypte. Et ils disaient, comment pouvez-vous penser que ces enfants d'Israël qui sont sortis, sont réellement les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov, et donc les enfants des enfants de Yaakov, et donc les descendants des patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens, eh bien, ont mis la main sur leur mère. Les Égyptiens les dominaient. Et donc, s'ils les dominaient et qu'ils les ont esclavagisés, ils ont bien sûr mis la main aussi sur leurs femmes. Et donc, les enfants sont les enfants issus de relations forcées, de viols, en quelque sorte, des Égyptiens avec ces femmes juives. Et donc, ces enfants qui sont sortis d'Égypte ne sont pas des enfants, des enfants juifs, ne sont pas des Hébreux. Ce sont les enfants des Égyptiens. Ce sont des Égyptiens qui sont sortis d'Égypte. S'ils ont réussi à dominer leur corps, comment voulez-vous qu'ils n'arrivent pas à dominer leur personne, leur femme, leur âme? Évidemment qu'ils ont réussi à faire tout cela. Et donc, c'est la première et c'est la deuxième justification, en quelque sorte, de ce conte-là. Montrer à la fois que, eh bien, voilà le nombre de Juifs qui sont là et qui survivent, mais montrer également que ces Hébreux qui sont sortis sont effectivement les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que les Égyptiens ne sont pas les maîtres, en quelque sorte, de ce peuple, au point d'avoir violé les femmes et d'avoir donc engendré ces gens qui sortent d'Égypte. Alors, pourquoi c'est tellement, tellement important que Dieu lui mette son empreinte, en quelque sorte, sur ces bnei Israël, sur ces enfants d'Israël qui sont sortis? Ben, c'est que finalement, ce thème-là, c'est un thème qui est récurrent. À l'époque de Avraham, c'était la même chose. Sarah a donc été séquestrée dans le palais de Avimelech. On nous le raconte au sujet de Avraham, hein, c'est au début, ça c'est dans la Genèse, c'est dans Bereshit. Et là, on nous dit la même chose. On découvre après que Sarah va être enceinte. Alors, les Letzané adorent, les moqueurs de la génération disaient, mais cet enfant, Yitzhak, c'est évidemment pas l'enfant de Avraham. C'est l'enfant de Sarah, effectivement, mais c'est l'enfant d'Avimelech. Cet enfant n'appartient pas à Avraham. Et donc, que va faire Dieu? Il va faire un miracle. Il va donner à ce bébé qui est né des traits du visage qui sont des traits du visage étrangement ressemblant à Avraham Avinu pour montrer en quelque sorte que cet enfant est bel et bien l'enfant d'Avraham et de Sarah. Alors, c'est la question qui se pose ici. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de prouver que nos enfants sont bien nos enfants, que nous sommes bien ce peuple juif-là? Pourquoi avons-nous besoin de prouver cela? Et deuxième question également, qu'est-ce qui nous est dit ici au travers de ce regard qui est posé sur la femme juive prisonnière? Cette femme juive prisonnière, la figure de la femme juive prisonnière, c'est une femme qui ne s'appartient plus et dont la descendance ne lui appartient plus, n'appartient plus au peuple juif. Il y a cette question que traite la Torah ici, dans Parashat Pinchas, eh bien c'est une question qui a des résonances actuelles tout à fait visible, d'accord. On est au cœur de cette actualité aujourd'hui. Les femmes juives tombées aux mains du Hamas sont des femmes dont les prisonniers du Hamas disent eux-mêmes dans les interrogatoires qui ont été filmés que leur projet, c'est un projet génocidaire, donc de tuer tous les hommes juifs en Palestine et de s'approprier le corps des femmes, d'accord. C'est-à-dire, en fait, quelque sorte, de s'approprier l'existence même du peuple juif. C'est-à-dire de faire du peuple juif un peuple non-juif. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est que Abou Mazen, le chef de l'autorité palestinienne, ne cesse de répéter que les juifs qui sont aujourd'hui en Israël ne sont pas juifs. Ils ne descendent pas des juifs. Et on voit encore ce thème-là encore. C'est un thème très particulier dans l'antisémitisme. Il a trait à ce que j'appellerais le cannibalisme antisémite. Cette idée de dévorer, c'est pas seulement de posséder, mais c'est de dévorer le corps de la femme, en quelque sorte, pour en quelque sorte annihiler, en quelque sorte, l'identité de ses enfants et du peuple lui-même. Et on retrouve cette idée chez les gens qui prétendent nous conquérir. Parce que, en vérité, dans le projet de disparition du peuple juif, il y a quelque chose qui est de l'ordre du cannibalisme. C'est quoi un cannibale? C'est quelqu'un qui mange un être vivant. D'accord? Le viol de la prisonnière, c'est une manière de manger vivante, en quelque sorte, cette personne, de lui ôter toute dignité, toute identité, mais aussi toute existence. Elle est réduite à l'état d'objet. Et cette objectivation-là, c'est un des traits caractéristiques de l'antisémitisme. Le véritable antisémitisme, c'est un antisémitisme qui veut essayer d'ingérer sa victime. D'accord. Alors, dans le projet de Balak, parce que finalement, la paracha de Pinchas, elle vient après le projet de Balak, c'est un peu ce qu'on voit, on a traité ce thème hein, la semaine dernière, à savoir que Balak, Bilam va dire, pourquoi toi Dieu, tu te fais servir par une peuplade. Prends 70 peuplades, moi je représente 70 peuplades. Et Dieu, on l'a expliqué la semaine dernière, refuse cette offre. Mais le projet de Bilam, il était de créer un virus Israël, un vrai Israël qui supplante l'Israël authentique, qui vient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et qui va recevoir la Torah. C'est le projet de Balak et de Bilam. Alors c'est très intéressant parce que Balak Bilam, c'est Gematria 274, c'est la même Gematria que Rachel et Léa. C'est la même Gematria que Mordechai. D'accord? Et en fait, c'est très intéressant parce que Rachel et Léa, elles vont générer le peuple juif. Et elles vont lui donner son ossature spirituelle, sa force spirituelle tout au long de l'exil. Et celui qui va permettre la survie du peuple juif au moment du décret de Pourim, c'est Mordechai. Mordechai, dont on dit qu'il est marié avec Esther qui est la descendante de Sarah. Sarah, qui est une femme qui a appartenu à Abraham Avinu, qui va donner naissance au peuple juif. Et Rachel et Léa, elles vont donner naissance au peuple juif. Et elles représentent la même guématria que Mordechai, parce qu'elles, elles donnent naissance au peuple juif, elles lui permettent d'avoir son identité, son existence physique, donc son identité spirituelle et son existence physique, mais Mordechai, guématria 274, c'est celui qui empêche la disparition physique, et d'abord la disparition spirituelle, il provoque la teshuvah, et ensuite après il empêche la disparition physique du peuple juif. Et on retrouve encore cette thématique finalement qui est de tenter par tous les moyens de gommer l'existence du juif. Alors c'est l'existence physique, c'est le détruire physiquement, c'est le projet d'Amalek, Gematria 274, c'est le projet d'Aman qui vient d'Amalek, mais c'est le projet de Balak et Bilam qui comporte les lettres de Amalek dans leur nom, d'accord. Et ensuite, à la fin, ça va être également ce que Hachem va nous expliquer dans cette paracha de Pinchas et de Balak. Je pose mon nom sur le peuple juif pour dire que ce projet de cannibalisme n'a pas marché, ni sur le plan spirituel, les juifs sont restés fidèles, ni sur le plan familial. Les Juifs sont bien des Juifs descendants d'Abraham, Israël et Yaakov, ni sur le plan national, les familles qui forment ce peuple sont bel et bien des familles qui descendent d'Abraham, Israël et Yaakov. Alors, il y a quelque chose ici qui est tout à fait fondamental, parce que ça doit nous inviter à réfléchir sur la centralité de la famille dans le peuple juif. C'est quoi une famille? La famille, c'est la cellule à l'intérieur de laquelle la présence divine se pose. Quand une femme, un homme et une femme le méritent, Yutke, la présence divine se pose en deux. Et ils sont réunis par la Ktuva. La Ktuva, c'est les lettres Ktov, écrit Vavke. C'est les dernières lettres du nom de Dieu. Et en fait, ce sceau divin qui est posé sur la famille, eh bien, il est la marque de fabrique de la famille juive, à l'intérieur de laquelle des enfants vont naître, mais ce sont des Neshamot, des âmes qui vont venir, et l'éternité d'Israël qui va pouvoir donc s'incarner dans la famille et plus tard dans le peuple.
Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Je me souviens, moi, d'une très belle phrase du rabbi de Lubavitch. Je vais essayer de la citer de mémoire. J'espère ne pas trahir sa pensée. Le rabbi qui disait pourquoi on compte? Parce que quand tu comptes le 1, le 2 et le 3, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. C'est une forme de rapport aux gens qui fait qu'il n'y a personne qui est supérieur. Même le plus grand rabbin, il est numéro 3, comme toi, tu es numéro 2. Et puis par ailleurs, il disait, ça montre aussi que puisqu'on compte, qu'on a toujours besoin de l'autre. On peut rien faire seul, il faut compter tout le monde. Voilà, typiquement du rabbi. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir Shabbat Shalom.
Alors Rav Gué, je vous posais une question, j'espère que vous n'allez pas pas froisser en posant cette question de cette manière-là, mais voilà, Pinchas est présenté comme un héros du peuple juif. Il y a quand même un problème, c'est qu'on ne tue pas comme ça. Alors, vous allez me dire, comme ça, enfin, je ne vais pas le faire à votre place, et c'est pour ça que je vous dis, excusez-moi si vous trouvez ça un peu direct comme question. Mais il faut des témoins, il faut un tribunal, il y a quand même toute une Torah. Et là, non seulement donc, on ne lui en veut pas, mais en plus de ça, il est considéré, il a une paracha, il est considéré comme un des héros du peuple juif. Alors, quels sont vos éléments d'explication à cette question étonnante?
Oui, tout à fait. J'ajouterais même que cet acte-là aurait pu être un acte, un assassinat qui aurait mérité même d'être puni si, attention, c'est le mot très important, tout dépend de la motivation de l'acteur, de l'homme Pinchas. Alors déjà, il a fait quelque chose d'extrêmement, comme vous avez dit, violent, donc tuer un des princes d'Israël, et donc évidemment ça aurait pu lui coûter très cher, il aurait déjà pu mourir tué lui-même par la vengeance l'intervention de personnes qui auraient pu ne pas apprécier son acte. Et d'ailleurs on voit que Hachem donc déclare: je lui donne mon alliance de paix, je lui offre la prêtrise. Mais en fait, nos rachis, enfin les commentateurs, disent qu'il y avait une vraie opposition. Les spectateurs disaient: mais c'est pas du tout ça. Alors, je voudrais expliquer un petit peu, d'une façon un peu plus approfondie et fine, quel était l'argument des spectateurs. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Et alors, ils ont pensé la chose suivante: c'est que Pinchas est en fait un descendant de Yitro. Alors, c'est tout ce qui est le fils de Élazar, le fils d'Aaron Akohen, mais du côté de la mère, il y a une ascendance de Yitro. Et Yitro, vous le savez, c'était quelqu'un qui a, au début de sa vie, il était un idolâtre patenté. Il a même, nous dit-on, essayé toutes les idoles du monde. Après, il a changé complètement, il s'est attaché au monothéisme, et il a eu le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu, notre maître, comme gendre. Il faut comprendre que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont vu l'acte de Pinchas, ils ont dit: c'est un acte de jalousie. Alors j'insiste sur ce mot, le mot jalousie, parce que ici, ils l'ont interprété d'abord comme étant un acte de jalousie, parce que, vous savez, lorsque on assiste à souvent des faits divers, des choses, on est des fois un peu intéressé, on a une curiosité souvent déplacée pour savoir exactement que s'est-il passé lorsqu'il y a eu tel ou tel attentat aux mœurs ou bien un assassinat. On a l'air d'être des fois très très curieux. Il y a des rubriques comme ça de faits divers, il y a des histoires, des livres. D'où ça vient cette curiosité? Par exemple, sur l'autoroute, on voit des fois des accidents, on a envie de regarder ce qui se passe. En fait, c'est une curiosité malsaine, mais en fait, elle a pour origine une chose très simple. C'est que lorsqu'on voit quelqu'un agir et faire quelque chose, en fait, au fond de nous, peut-être, il y a l'envie de faire la même chose, en fait. Et on est un peu jaloux de cet homme qui a osé faire ce que nous n'osons pas faire. C'est-à-dire que, quelque part, il y a un petit peu d'admiration, jalousie, parce que finalement, il a fait quelque chose que j'aurais voulu faire, mais que je n'aurais pas pu. Donc Pinchas, en plus, en tant que descendant d'un idolâtre, les gens ont dit: non, c'est un acte de jalousie. En fait, il en veut à ce prince d'Israël d'avoir osé faire ce que lui-même s'interdisait à faire pour des raisons de statut, de position sociale, petit-fils de Aaron HaKohen, fils d'Élazar HaKohen, bref. Il n'a pas osé faire, mais il était jaloux de cet homme qui a osé faire ce que lui, il aurait voulu faire. Et qu'en fait, il l'a tué par jalousie. Alors, c'est vrai que c'est difficile à entendre, hein. C'est une analyse profonde et psychologique. Je l'ai entendu, cette analyse du Rav Volbe, qui nous l'a expliqué à Motsai Shabbat, un samedi soir, par Chapin Traz, il y a plusieurs dizaines d'années, en disant donc c'est vraiment... les Juifs, les Bnei Israël, ses contemporains disaient: mais il est jaloux, il est animé par tout quelque chose de très très noir, très 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 moche, l'agressivité, donc cet assassinat, etc. Bon, bref, très mal jugé. Alors Dieu est venu en disant: non non. Pour répondre à votre question, ce qu'a fait Pinchas, c'est un acte de bravoure, de courage, et un acte kadosh, c'est-à-dire dénué de toute pensée, de toute jalousie, de tout intérêt personnel. Ce qu'il a vu, c'est très simple, c'est qu'il a vu que le peuple juif était en train de mourir, hein, via une magéfa, une plaie, une sorte d'épidémie. 24 000 morts quand même, hein, c'est quand même très rapide, hein, ça, 24 000 morts. Il se dit: mais c'est la fin du peuple juif. Il y a une colère de Dieu, il faut que je réagisse, il faut que je fasse un acte fort. Et avant d'agir, il va voir notre maître Moshe en lui disant « Je crois avoir appris que dans ce cas précis, on a le droit d'agir, on a le droit de faire. » Et Moshe lui répond « Si tu t'en rappelles et si tu, effectivement, c'est... fais-le, mais tu n'as pas l'ordre, l'obligation de faire, mais l'autorisation de faire. » Donc Pinchas a posé la question d'abord, a reçu l'autorisation, mais pas l'obligation de faire. Il sait qu'il a prend des risques énormes pour sa vie, mais aussi pour sa vie spirituelle, parce que s'il ne le fait pas d'une façon totalement pure, kedosha, c'est un acte qui doit se faire pour éradiquer le mal et protéger le peuple juif de la colère de Dieu, c'est un acte très répréhensible. Et donc Pinchas prend des risques énormes, et finalement il réussit, et Hachem et Dieu est obligé d'intervenir en disant moi je vois dans les cœurs, je sais ce qui se passe dans le cœur de l'homme et dans les pensées de l'homme, et je vous dis que Pinchas c'est un kadosh, c'est un tzaddik, c'est un homme qui a des motivations très pures. Il n'y a que Dieu qui peut le dire. Les hommes ne sont pas capables de lire dans le cœur d'autrui, ni dans la tête d'autrui. Donc Pinchas réussit son coup, mais c'est vraiment, on va dire, quelque chose de très limite, hein, très, très compliqué. Et il est critiqué par ses contemporains. Et alors il reçoit la keuna, la prêtrise. Et là, on peut être encore très étonné. La prêtrise, c'est le shalom, c'est Aaron qui est l'homme du shalom. Comment cet acte-là peut-il être appelé un acte de shalom? C'est un acte de guerre, c'est pas un acte de paix. Et là encore, nos sages nous expliquent que, effectivement, si c'était par colère, par volonté de vengeance, par jalousie, par je ne sais quelle motivation noire, eh bien c'est un acte d'un assassinat. Mais comme Dieu le dit, comme Dieu va l'affirmer, et surtout le certifier, c'est un acte qui était dénué de toute réflexion, toute pensée, de tout intérêt personnel. C'est un acte pour Hachem, pour sauver le peuple juif, pour venger ce chiloul Hachem, cette profanation du nom de Dieu. C'est ça, et rien d'autre. Et lorsque cette certification divine est donnée, eh bien, tout le monde reconnaît chez Pinchas une force incroyable. Certains disent que Pinchas et Eliyahu, c'est-à-dire qu'ils se seraient réincarnés des centaines d'années plus tard dans la personnalité d'Eliyahu le prophète. Donc Élie le prophète, donc c'est vraiment une personnalité centrale dans l'histoire juive. Et Pinchas vraiment va stopper de façon incroyable cette épidémie et il va sauver le peuple juif. Donc respect pour Pinchas, bravo à Pinchas, mais un acte évidemment qui ne se fait que sous contrôle. Et en fait, pour être très précis, aujourd'hui, il ne se fait pas du tout parce que tout simplement, on n'est pas au niveau d'avoir cette pureté et cette motivation. Et puis, on n'est pas dans une situation d'épidémie, etc. Donc, à aucun moment, c'est quelque chose que l'on peut mettre en application, évidemment. Et surtout parce qu'on sait très bien que nous sommes très loin d'avoir ces motivations qu'avait Pinchas. Mais voilà, un homme exceptionnel, avec un destin exceptionnel, une paracha exceptionnelle, et un Kohen de plus, Pinchas Ben Elazar Ben Aaron HaKohen. Je vous rappelle qu'il n'avait pas droit à la prêtrise parce que la prêtrise avait été décidée et offerte après sa naissance, et que ce n'est que ceux qui sont nés après cette décision de rendre Aaron prêtre et ses descendants que les choses ont pu se mettre en place. Mais comme lui, Pinchas, était né avant, il n'était pas prêtre alors qu'il était en fait petit-fils d'Aaron HaKohen.
Mais moi, je parle que pour moi. Mais moi, je sais que je suis tout à fait capable, effectivement, de m'énerver. Parce que j'ai pourquoi lui, il a le droit et pas moi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Surtout, quels que soient les midotes et quelle que soit la transgression. Donc, on peut très bien comprendre, en fait, ce que vous venez de nous expliquer. Oui, je sais, des fois, même, je me dis, tu n'es pas en colère, en fait. Tu es un peu jaloux, dis la vérité. Tout à fait. Et par ailleurs, je crois, parce qu'on a pris un peu coutume de taper un peu en disant voilà, on a de gros soucis parce qu'on se déteste les uns les autres, on parle beaucoup comme ça. Mais moi je crois aussi que depuis le 7 octobre, et d'ailleurs depuis le 7 octobre, dès 6h du matin le 7 octobre, on a vu beaucoup d'actes d'abnégation, je parle sous votre contrôle évidemment, mais des actes tels que vous êtes en train de les décrire. Hier, Benjamin Netanyahou a parlé devant le Congrès, il a dit, il y a un soldat, quand il a appris le 7 octobre, bon, il était chez lui, Il a pris son uniforme, il a pris son fusil, mais il n'a pas de voiture. Il a couru 13 kilomètres pour aller défendre les autres. C'est un Éthiopien, il sait courir. Il sait faire un marathon, il sait courir. Il a couru 13 kilomètres avec son fusil, il ne s'est pas arrêté. Moi, je crois que depuis quelques mois, on est aussi, dans tout ce malheur, on est aussi zoché de voir des moments et des gestes totalement gratuits de gens qui donnent, qui abandonnent tout leur boulot pour aller cueillir, pour aller faire quelque chose qui est utile.
Tout à fait. On a vu le pire, en fait. On a vu le pire, on a vu le meilleur pendant ces derniers mois. Le pire et le meilleur qui s'est malheureusement... Voilà, on va rouler un peu descendre à un niveau d'animal et de barbarie, en plus en invoquant le nom de Dieu. Et à l'inverse, des gens qui sont prêts à donner leur vie pour les autres. Vraiment, le blanc et le noir, le bien et le mal, l'un en face de l'autre.
Bah allez, c'est Machiar qui va nous expliquer tout ça. Rav Gay, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom. Et je vous retrouve pour un journal complet à 18h.
שם לא יבנה בית, שום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי. אם השם לא יבנה בית, שום ליבוי נבוי, אם השם לא ישמור יהיה, שוב שוקת שוי מי.